Bonjour, bien-aimés. Si vous ne répondez pas, je m'en fouille. Hein. Je suis content de vous retrouver pour continuer à parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'objet de notre foi. C'est vrai que nous sommes dans une période de vacances, mais nos parents, nous avons toujours des semaines chargées. Donc, le dimanche comme ça, plus particulièrement, c'est le jour où nous nous retrouvons en grand nombre. Je dirais, c'est comme nos téléphones, nos appareils, lorsque ils ont plus de batterie, il faut bien les charger pour pouvoir relancer. Eh bien, nous aussi, en Jésus-Christ, nous avons toujours besoin de cette énergie, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, d'être en communion avec Jésus-Christ, parce que c'est lui la source de notre vie. Pour d'autres, c'est la réputation, c'est la renommée, c'est le plaisir de ce monde. Nous n'en pouvons rien, mais nous, notre source d'existence à tous les points, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons vient de lui, et tout ce que nous sommes également vient de lui. Alors, je vais vous dire encore un merci d'être assis pour m'écouter, parce que je me dis toujours, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne me vois pas comment je pourrais être devant vous. Non. Je ne vois pas comment, mais c'est que la grâce de Dieu, à cause de l'évangile de grâce, qui me donne cette opportunité pour être devant vous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ une seconde fois, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Merci, ma chère. J'ai commencé à préparer une petite prédication sur le mot l'agneau dans la Bible. Mais ça m'a pris de court dans la semaine. J'ai différé ça, ça va être pour une autre fois. Ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, j'aime pas trop dire ça parce qu'on entend tellement de gens qui utilisent ce terme. Et après, ils font leur propre compte. Mais c'est le Saint-Esprit qui me donne ça parce que ça ne vient pas de moi. De ce que je veux vous proposer, nous allons parler pendant quelques instants. Je vais vous proposer ce texte qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 4, au verset 10 et au verset 11. De quoi il s'agit? C'est tout simplement un rappel pour les anciens. C'est un texte qui les sont familiers, qui les connaissent et qui l'ont déjà prêché probablement à maintes reprises. Mais il est bon de les rappeler parce que, si vous voulez, l'Église, c'est un roulement. Il y a des gens qui viennent, qui s'en vont. Il y a des gens âgés, moins âgés parmi nous. Donc, à un moment donné, soit qu'ils vont partir à la retraite, et il en faut d'autres pour les relayer. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Ce texte, qui se trouve en 1 Pierre chapitre 4, verset 10-11, c'est l'apôtre Pierre, probablement, même si vous ne le connaissiez pas comme moi physiquement, mais nous savons cet homme qui aimait le Seigneur, que Jésus-Christ avait choisi pour être son apôtre, son disciple, son apôtre. Et Jésus-Christ l'avait mandaté comme vous savez, son métier, c'était pêcheur de poissons. Et Jésus-Christ a fait de lui les pêcheurs d'hommes. Et c'est cet apôtre, avant de quitter ce monde, Jésus-Christ lui a permis d'écrire ces choses pour notre instruction. Je vous propose la lecture, je vous la faire. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir prêter attention, c'est important. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces des dieux, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, vous notez avec moi, si vous voulez bien, c'est facile, hein? Le texte nous dit « comme des bons dispensateurs ». Quel est le contraire de bon? Si vous me permettez, vous n'êtes pas des enfants, bien entendu, on n'est pas à l'école, hein? À l'école, dans les petites classes, souvent les professeurs, c'est leur job, hein? Interrogent les enfants pour tester leur coefficience, pour voir ce qu'ils comprennent. Tout de suite, vous observez avec moi, le contraire de bon, c'est mauvais. Tout le monde le sait. Nous sommes en face de ce texte où l'apôtre veut nous enseigner. J'aimerais juste voir le mot dispensateur. De ce mot-là, on nous a appris à l'école, il y a des mots, un seul mot, on peut le trouver sous plusieurs formes. Donc, le mot dispensateur, ici, nous pouvons l'avoir sous d'autres formes. Par exemple, surveillant, trésorier, administrateur, gérant et bien d'autres mots. Mais je pense que tout ce que je dis là, cela nous suffit largement. C'est l'apôtre Pierre qui nous exhorte, qui nous demande d'être de bons dispensateurs. Le contraire des bons, c'est mauvais. Je le répète une seconde fois. L'apôtre nous demande d'être de bons dispensateurs. De bons dispensateurs de quoi? Il nous dit de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Alors, un dispensateur, c'est quelqu'un, par exemple, prenons un banquier, par exemple. Comme j'ai cité, dispensateur, ça peut être gérant d'une société, mais la société n'est pas à lui, hein. Il gère la société, mais la société n'est pas à lui. Un administrateur, c'est quelqu'un, on confie des biens, mais ces biens-là ne sont pas à lui. Il ne peut pas faire à sa guise comme bon lui semble, parce que c'est pas ses biens. Il les gère, on les confie. Il a des comptes à rendre. C'est comme pour un banquier. Vraiment, il peut être directeur, mais il n'est pas le propriétaire parce qu'il a des actionnaires, il y a des gens à qui il doit rendre compte. Et ici présent dans le texte, l'apôtre nous qualifie les responsables de l'Église, les prédicateurs, les diacres, les pasteurs, les docteurs, tous ceux et celles qui ont certaines fonctions, nous sommes des gens à qui on confie des tâches pour les gérer, mais ces choses-là ne sont pas à nous et nous devons les faire bien parce que on a des comptes à rendre. Lorsque l'apôtre nous dit des diverses, alors j'ai déjà parlé de tout ce qui est dispensateur, sa fonction, les biens qu'il gère, c'est pas ses biens à lui. Alors ici, des diverses grâces des dieux, des diverses grâces des dieux. Comme je disais au préambule, c'est un rappel. Notre assemblée, j'ai béni les seigneurs, fonctionne d'une façon, et lorsque nous regardons en 1 Corinthiens chapitre 14, c'est la base. L'Église ici, dans cette assemblée, là où je suis depuis un certain temps, cette assemblée a une bonne base. Pourquoi? Par exemple, la façon dont vous adorez ici, c'est le modèle qui est donné en 1 Corinthiens chapitre 14. C'est le modèle qui est donné. Et c'est l'apôtre Paul qui donne ce modèle-là, comment l'Église de Jésus-Christ doit être fonctionnée. Et nous allons voir pourquoi les dispensateurs, il y a d'autres versions qui disent intendant. Il y a des versions qui disent administrateur. Ces administrateurs-là, ces intendants, ces surveillants, ils doivent exercer bien exercer leur fonction. Alors le texte nous dit des diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu, c'est quoi ces grâces? Il faut s'interroger pour comprendre c'est quoi ces grâces. Nous allons voir ça à un moment donné en Éphésiens chapitre 4 verset 11-12, mais je m'attarde encore dans ce texte parce que je vais juste le survoler, mais il y a beaucoup de choses dans le texte en l'interrogeant. En interrogeant le texte, il y a beaucoup de choses. Et les diverses grâces de Dieu, nous allons voir ça en Éphésiens chapitre 4. Là, la Bible va nous dire, je vous propose de regarder le texte, mais je reviendrai certainement dans l'épître de Pierre, qui est le texte de base. L'apôtre Paul ici, lui, il va nous dire, voilà les diverses grâces des dieux que le Saint-Esprit confie à l'Église, confie aux responsables des Églises, de l'Église ou des Églises. Enfin, quand je dis des Églises, c'est que je parle ici de notre assemblée ici, il y a des responsables ici. Vous sortez d'ici, vous allez ailleurs, vous en trouverez. Il y a pas mal de communautés qui travaillent pour les seigneurs, mais tous ces gens-là, le Saint-Esprit les équipe, le Saint-Esprit leur donne des tâches pour le bon fonctionnement de cette assemblée. Je vous propose la lecture. Éphésiens 4, 11, qui dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, nous arrêtons-nous là un moment, et ça me fait penser, en lisant ce texte, ça me fait penser à la fille de notre frère lors de son baptême. C'est une théologienne qui est là. Pourquoi? Je ferme la parenthèse tout de suite. C'est la lecture du texte de Romains 3, 23. Quand elle a fait cette lecture, et effectivement, je l'avais appelée, je lui ai dit après, pourquoi je dis que c'est une théologie? Gloire à Dieu, parce que le texte n'est pas terminé, il y a une virgule au verset 23, et lorsque nous lisons les deux textes, et là, les textes sont complets. Bref, parenthèse fermée. Donc, la Bible nous dit que, voilà, le Saint-Esprit donne, il y a neuf dons, il y a neuf dons, si j'ose dire, neuf grands dons, il y a neuf dons. Mais nous voyons que le Saint-Esprit en donne priorité à cinq dons qui sont des dons, on les voit plus facilement. Par exemple, moi ce matin, le Saint-Esprit fait grâce dans ma petitesse d'être devant vous. S'il y a des gens dans l'assemblée, en me voyant ici tout de suite, on peut me prendre pour un responsable de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis exposé devant vous, c'est moi qui parle. Alors, il y a d'autres dons, il y a des frères, il y a des sœurs qui le font, mais on ne les voit pas. Mais le don de la parole comme ça, c'est l'un des dons qui est mis, qui est exposé. Commentons les textes, regardons les textes, relisons les textes avec moi. Verset 11 qui dit, il a donné les uns comme apôtres. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Un prophète, vous savez qu'est-ce que c'est? Un évangéliste, vous le savez aussi. Les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez le verset 12, c'est là qu'il va nous donner l'explication. Pourquoi le Saint-Esprit donne ces dons-là à son Église? Le verset 12 nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère et de l'édification du corps de l'Église, de Christ. Lorsque vous observez, si vous questionnez le mot perfectionnement là-dedans, si vous interrogez ça, vous le testez, là-dedans vous trouverez l'adjectif parfait. Et le Saint-Esprit donne ses dons aux responsables à l'Église, ou bien donne ses dons à l'Église, ou bien aux responsables de l'Église, c'est pour pouvoir. Il y a un mot qui est fort dans le texte, c'est l'édification. Le but de l'Église, bien-aimé, le but de l'Église, quand nous nous réunissons, le but, c'est pas le cas, hein, c'est juste une petite parenthèse, parfois il y a un petit mot qui s'appelle commérage, c'est pas, comprenez-moi, hein, je ne dis pas que c'est le cas ici, c'est une façon juste pour m'expliquer, mais la parenthèse elle est fermée tout de suite, c'est pas pour faire le commérage. Quand nous nous réunissons dans le but de glorifier Dieu, de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il fait, de dire ce qu'il est capable de faire, de le louer, de le glorifier. Et la Bible nous dit, ces dons sont donnés à l'Église, c'est dans les buts pour que l'Église soit édifiée. Je vous explique. Si vous me permettez, quand je dis je vous explique. Lorsque nous nous réunissons, vous m'apprenez des choses. Et c'est quoi en fait le verbe édifier? C'est comme quoi vous êtes en train de construire une maison, une tour. Voilà, nous nous édifions quand vous chantez. Et l'apôtre Paul, toujours en 1 Corinthiens chapitre 14, tout le chapitre, et surtout lorsque nous arrivons au verset 27-28, qui nous donne la motivation lorsque nous nous réunissons. Nous réunissons pour que nous puissions nous édifier l'un l'autre. Et deuxièmement, il y a un autre point capital, c'est que pour le nom de Dieu soit glorifié. Il y a deux points peut-être dans tout ce que je vous dis là, mais il y a deux choses qui me semblent importantes. Lorsque nous nous réunissons en église, quel que soit la réunion. Ici, ce matin, généralement, quand je suis là les mardis soirs, on n'est pas nombreux comme ça. Ça se comprend parce que on travaille, on est fatigué, on a des occupations, des enfants. Parfois, il y a des enfants. Bon, peut-être qu'il faut les accompagner au foot, au conservatoire. Dès l'époque, c'était mon cas. Bon, c'est fini. Ça, je ne suis plus là-dedans. Nous comprenons ça. Mais, quelle que soit la taille de la réunion, quand nous nous réunissons, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour que l'Église soit édifiée. Donc, l'apôtre nous donne quelques éléments, je pense que je ne l'avais pas donné, mais c'est dans la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, qui nous dit que lorsque nous nous réunissons, as-tu un cantique, et c'est ce que nous avons fait ce matin, as-tu une prière? Voudrais-tu lire un texte? Et c'est ce que notre frère a fait. Voilà, comme je disais au début, notre assemblée ici a une bonne base. Et c'est comme ça. Et dans tout ça, quand tu chantes, ma sœur a chanté, mon frère a lu, dans tout ça, c'est quoi le résultat au final? C'est que moi, je me sens béni quand le frère lit ce texte, même si peut-être je le connais déjà, mais là-dedans, je profite de me ressourcer dans ce qu'il dit, dans ce qu'il lit. Et le cantique qui est chanté, par exemple, c'est comme si à chaque fois frère Eric dirige, je dis ça comme ça, c'est comme si son esprit et mon esprit, le cantique les surproclame. J'étais en train au pays chez moi, je dirais, j'étais en train de gronder ça dans ma gorge. Les surproclame. Et dans le mot les surproclame, moi j'ai envie de dire pourquoi ne pas dire les hommes proclament, parce que les cieux c'est pas abstrait, on le voit, mais les cieux n'ont pas une bouche. Mais non, ça, si vous voulez, ça c'est ma petite théologie à moi, je ne conseille à personne de rentrer dedans, ça c'est mon petit truc à moi. Donc voilà, le Saint-Esprit donne ces choses pour que l'Église puisse être édifiée, avancer ensemble. Une petite chose j'aimerais dire, ceux qui ne prient jamais, je vais vous demander tous votre cahier de correspondance. Je vais mettre un mot et je vais convoquer vos parents. Je ne suis pas les pasteurs, voyez-vous. Alors dites-vous bien, si ce monsieur-là était les pasteurs de l'Église, quelle rigueur aurait-il? Ça pouvait être chaud, hein? Donc voilà, non, c'est juste pour vous encourager, c'est juste pour nous encourager, c'est juste pour nous dire que Jésus-Christ a fait tellement de choses pour nous. Je vais juste vous dire quelque chose. Regardez, moi j'ai pas l'habitude d'aller dans un stade ni au cinéma, j'ai pas l'habitude. Je vous dis ça, je vais pas me cacher. Mais quand on va dans un stade, quand les fans, quand ils ont leur vedette qui marque un but, vous voyez comment ils font? Et non seulement ce qu'ils font dans le stade, et quand ils sortent, ils sont prêts à boire. Et non seulement ils sont prêts à boire, à fond la caisse, parfois ils ne se souviennent même pas leur adresse. Ce que je vous dis là, j'ai déjà eu des contacts comme ça, hein, parce que dans mon travail, je peux vous dire, parfois, il y en a. Hein. Donc, pourquoi je prends cet exemple? C'est que, voyez-vous, des gens, quand c'est un match de foot, ils sont capables d'acheter, de réserver leur billet depuis pour venir, et ils prennent une chambre d'hôtel, ça leur coûte de l'argent. Jusque-là, moi, je n'ai rien contre. Mais juste l'exemple que je vais vous donner, et quand nous nous réunissons en présence de Jésus-Christ, nous restons figés? Pardon, je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale. Hein. Vous comprenez? Les pasteurs me demandent de dire des mots, mais nous voulons avancer ensemble. D'accord? Nous avançons ensemble. Ta présence est là pour me bénir. Ma présence est là pour te bénir. Quand tu chantes, ma sœur, tu élèves Dieu. Donc, voilà. Nous sommes dans une période de vacances. Je donne cette liberté. Mais à la rentrée, je ne veux pas quelqu'un ici rester la bouche fermée. Non, je suis sérieux. Alors, je ne suis pas les pasteurs, mais surtout alors, si ce monsieur était les pasteurs de l'Église, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc, comprenez, nous avançons ensemble. Tu es là, ne te sens pas touché, hein? D'accord? Alors, les dons qui sont donnés à l'Église, bien-aimés, je vais vous dire une petite chose, nous ne sommes pas les propriétaires de ces dons-là. Nous ne sommes pas les propriétaires de ces dons-là. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi avec. C'est que le Saint-Esprit équipe son Église, donne ses dons à son Église, c'est pour... Et l'apôtre va nous dire un peu plus loin, c'est que si vous n'êtes pas formé, je ne suis pas formé, je ne suis pas instruit, vous n'êtes pas instruit, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes léger, Je suis léger. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis que nous sommes légers? C'est-à-dire que quand vous sortez dehors, vous savez, il y a des gens un peu tordus, avec qui présentent des choses pour pouvoir nous détruire, si je peux parler ainsi, pour nous détourner. Mais si vous ne connaissez pas un petit peu de la parole de Dieu, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous allez voir, les gens sont prêts pour aller dans les concerts. Je n'ai rien contre. Mais combien de fois se donne-t-il la peine d'aller dans les études bibliques? Ah, là, ce matin, Frère Ruben commence à mettre son doigt dans des trucs là. Bon, le comité de l'église ici, le diaconat de l'église ici, va lui dire, écoute mon frère, là tu parles trop, tu commences à rentrer dans des choses qui ne te regardent pas, merci. Non, mais c'est vrai, bien-aimé. Donc, le don, les pasteurs, si je dis ça comme ça, le pasteur n'est pas le patron de l'église. Et quand je parle de pasteur, je ne parle pas du pasteur ici, même s'il m'écoute. Le docteur, là je ne parle pas de docteur dans un hôpital, je parle parce que c'est écrit dans la Bible, le docteur c'est celui qui soigne, et qui soigne l'âme, c'est lui qui donne l'explication de la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire juste pourquoi j'ai toujours refusé d'être là. C'est l'un des points. J'en ai, hein. Peut-être un jour j'en dirai à quelqu'un, mais c'est l'un des points. Parce que je me dis que, par exemple, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, je me dis, j'aimerais pas, par exemple, quand un frère, pendant toute la semaine, il était angoissé, une soeur, soit au travail, soit dans sa famille, je ne sais où. Et quand il vient à l'église, le prédicateur qui lit le texte n'est pas capable de lui... Enfin, c'est pas le prédicateur lui, mais le prédicateur a une responsabilité. La responsabilité du prédicateur qui parle de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit est là, mais il y a un moment de prière, de communion, il y a des recherches. Il faut pas se dire que ça va venir comme ça. Oui, mais je comprends, mais nous sommes dans une société. Moi, c'était l'un des points qui me repousse toujours, parce que je me dis, pour moi, c'est une responsabilité. Quand je dois prendre la parole, mais le frère toute la semaine, la soeur toute la semaine, fatiguée, mais quand elle vient, elle doit entendre quelque chose qui peut l'aider. Moi, c'était ma motivation. Je m'arrête là. Hein. Alors, le pasteur, je disais, n'est pas le patron de l'église. Le docteur, il n'est pas le maître de ses étudiants. Il est là pour les former, pour les préparer, pour les aider à avancer. Je vais prendre juste Matthieu chapitre 25. Et là, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. Matthieu chapitre 25, verset 20-23. Vous allez juste voir quelque chose. Et là, ça m'a vraiment interrogé en lisant le texte comme ça. Matthieu 25. Alors, le verset 20, je vais le lire. Regardez bien ce qui est dit. C'est que Jésus-Christ, le maître de l'Église, Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, Jésus-Christ, le propriétaire de l'Église, se présente ainsi. Lorsque nous lisons à partir du verset 14 de Matthieu 25, Jésus-Christ se présente comme un homme d'affaires ou bien comme un propriétaire qui part pour un voyage, mais qui confie ses biens à des gérants. C'était notre point de départ, c'était le mot administrateur, dispensateur. Mais le texte nous dit, regardez bien, si vous suivez bien, vous allez voir, comment on appelle ça, analogie. Vous allez voir, entre le verset 20 et le verset 21-22, vous allez voir des choses. Et vous faites votre analyse vous-même. Hein. Jésus confie ses biens. Voilà, verset 20. Celui qui a reçu les 5 talents s'approcha. Vous connaissez les mots, c'est juste un rappel. Mais regardez, il en a produit 5, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice. Regardez la louange. Est-ce que je veux dire la louange? Je vais dire plutôt la mention plutôt. Regardez au verset 21 ce que Jésus lui dit, ou bien la félicitation. Son maître lui dit, c'est là, j'aimerais que vous regardiez ça avec moi, verset 21, 22, 23. Son maître lui dit, c'est bien. Et si vous regardez les versets... merci, est-ce que... Stop, s'il te plaît. Et son maître lui dit, c'est bien. Ok, verset 23. Regardez, si vous mettez ces deux textes en parallèle, vous verrez, les deux textes sont écrits mot pour mot. Mot pour mot. Les versets 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en plein des choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, c'est après avoir fait la déclaration de dire à son maître, voilà, tu m'avais confié ci, tu m'avais confié ça, voilà le produit, voilà le bénéfice. Et le verset 22, pareil, 22, celui qui en avait reçu deux, il en a donné aussi un bénéfice favorable. Et les deux textes nous disent les mêmes choses. Le verset 23 nous dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Je m'arrête là. Ce qui m'a travaillé à l'esprit, c'est de dire que faisons-nous avec la responsabilité que le Saint-Esprit Jésus-Christ nous confie. Voilà. Et moi, j'aimerais bien entendre arriver au ciel, dans ma petitesse, dans mon petit milieu, là où je suis, j'aimerais bien entendre cette parole venant de la bouche de mon maître, qui me dira, cher Ruben, bon, sincèrement, je serais tellement content, je n'ai même pas besoin qu'il me dise tout cela, il suffit qu'il me dise, rentrez dans la joie de ton maître, je serai satisfait. Je serai satisfait, parce que simplement, pourquoi ces gérants-là, considérons, c'est l'Église, hein, étaient fidèles, ce gérant-là, et cette fidélité en question, c'est que, voilà, c'est vrai, il y a des hauts et des bas, quelquefois il y a la fatigue, quelquefois on n'est pas toujours au top, mais ils étaient à la brèche. Voilà, et Jésus va leur dire, bon et fidèle serviteur, tu as été, voilà, mais au final, rentrez dans la joie de ton maître. Alors, bien-aimés, nous arrivons au terme. Et lorsque nous prenons le verset 30 de ce même chapitre, regardez, si vous lisez les versets, vous connaissez déjà les versets 24, il y a un parmi ces gens-là qui en avait reçu un seul don. Qu'en avait-il fait? Le verset 23-24 nous disent que il a présenté une plaidoirie, il a dit à Jésus, bon écoute, tu sais, voilà, je n'ai pas besoin de tout dire, vous connaissez. Mais je veux dire que entre la récompense de deux premiers qui ont été qui ont donné un avis, enfin, qui ont apporté un bénéfice, et le verset 30, regardez ce qui est dit. Et les serviteurs inutiles. Déjà, rien que inutile, ça me casse. Parce que l'adjectif, il est fort, non? Inutile. Et il y a d'autres versions qui disent bon à rien, carrément, hein? Vaut rien. Il y a la version semeur, qui est carrément, c'est comme ça, la version semeur. Si vous lisez, le texte ne l'aménage pas, hein? Le texte lui traite carrément, vaut rien. Et c'est fort. Alors, voilà, ça c'est un jugement. C'est-à-dire que c'est à la fin, lorsque Jésus-Christ de retour, il va y avoir un questionnement. Il va falloir rendre compte. Et qui va me demander, mais qu'avais-tu fait? Et pendant que je prépare ça, je me dis, mais Jésus, non seulement, si je me rappelle de sa mort, de tous les mépris, les clous, l'humiliation, l'arrestation, tout ce qu'il avait subi pour nous. Mais la question, c'est rien que le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec ça? voilà, je me lève, je vais travailler, et puis bon, voilà, je m'occupe de ma famille, je mène ma vie, et après, non, j'ai une responsabilité. Le texte nous dit, voilà ce qui va se passer. Les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire que c'est le jugement qui va être prononcé. Alors, bien-aimés, en peu de mots, voilà ce que je voulais juste partager avec vous. Déjà, les dons que le Saint-Esprit donne à son Église, à chacun. Vous savez, à part de ces dons-là qui sont en vogue, qui sont exposés, tout le monde voit, il y a d'autres, en 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous parle la liste des dons. Et je veux vous dire qu'en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous donne ces dons-là, c'est pour l'utilité commune de son Église. J'aimerais vous dire, ne vous sentez pas exclu. C'est vrai, je comprends, parce que il y a une barrière pour certains d'entre nous. Ça peut être, parce que je comprends. Moi, le premier, je le reconnais bien volontiers. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Et moi, je le dis ouvertement. Je le sais. Je sais qu'il y a beaucoup de lacunes. C'est pas quelques lacunes. Il y a beaucoup. Pas quelques, beaucoup. Lacunes pour s'exprimer. Lacunes pour prendre la parole. Qui dit s'exprimer, prendre la parole? C'est la même chose. Mais j'ai envie de vous dire, mettez-vous. Et Jésus-Christ, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est pas ta faute. Que personne ne se sente exclu. D'accord? Peut-être ce que je dis là, je sais, peut-être dans tout ce que je dis, ça peut, les autres choses peuvent ne pas avoir une conséquence, mais ce que je vous dis, je le partage avec vous, je comprends. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Et nous sommes une famille, et la table est prête. Ne t'écarte pas de la table. Mets-toi à table comme nous. C'est vrai, moi, avant d'arriver ici, jusqu'à présent, comme je suis toujours un petit peu réticent, je comprends. Pour se faire comprendre, il y a la communication. Je comprends. Je sais que ça existe. Je connais. Mais je veux dire que c'est que là où Jésus-Christ t'a appelé, là où Jésus-Christ t'a placé, tu es là pour servir Jésus-Christ. Ne te mets pas de côté. Alors, voilà, nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet arrive à sa fin bientôt. Il va y avoir le mois d'août. Prenons un peu de temps de réflexion, ou bien je ne sais pas. Mais dis-toi, pour la rentrée, on va se mettre tous ensemble au travail. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés et il veut nous voir ensemble pour sa gloire. D'accord, bien-aimés? Alors, comprenons ce que je vous dis. C'est que chacun, le texte, si vous regardez bien, vous le lisez comme moi, je retourne dans le texte de 1 Pierre chapitre 4, qui nous dit que comme des bons dispensateurs, le contraire des bons, c'est mauvais. Que fais-tu avec le don que tu as reçu? Là où Jésus-Christ t'a placé, que fais-tu avec ça? Et que le texte nous dit que le texte de 1 Pierre 4 nous dit que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et les grâces de Dieu ici, c'est les dons que tu as reçus, et que chacun de vous mette au service des autres le don que tu as reçu. Ne les cachez pas. Si vous lisez Matthieu 25, ne fais pas comme ce monsieur qui avait dit à Jésus-Christ, « Bon, écoute, je sais qui tu es, voilà, je ne veux pas avoir d'histoire avec toi, parce que je sais que dans ta rigidité, ça c'est moi qui parle, hein, tu es capable de faire n'importe quoi. Mon cher ami, voilà ton bien, je l'ai caché quelque part. » Non, c'est que chacun de nous a quelque chose à notre niveau. Je veux croire que chacun de nous a quelque chose. On peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir supporté. Que Dieu nous bénisse.
Merci à notre